Cette émission vous est présentée par Le Monde de demain. Les tribunaux de nos pays devraient être des lieux où la loi, l'ordre et le bon sens prévalent. Des lieux où des sujets de la plus haute importance sont présentés, dans les moindres détails, devant un juge impartial, afin qu'il ou elle puisse considérer les faits, voir les preuves et en tirer une conclusion. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons imaginer que nous sommes dans un tribunal, et vous serez dans le rôle du juge, alors que nous présentons un dossier bien plus important que vous ne l'imaginez. Le christianisme actuel représente-t-il fidèlement les enseignements, les croyances et les pratiques de son fondateur officiel, Jésus-Christ ? À vous de juger, alors que nous examinons le dossier du christianisme contre le Christ. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue au Monde de demain. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je souhaite faire quelque chose d'un peu différent dans l'émission d'aujourd'hui. J'ai grandi en regardant des séries télévisées américaines classiques comme celle de l'avocat Perry Mason, interprétée par Raymond Burr. J'ai aimé le voir présenter avec logique la défense de ses clients devant des tribunaux, semaine après semaine. Vous êtes peut-être familier avec d'autres séries judiciaires de fiction. Par exemple, beaucoup de nos téléspectateurs en Europe francophone connaissent la série des Cordiers, Juges et Flics. Aujourd'hui, je souhaite remplir le rôle de l'avocat ou du procureur. Je souhaite présenter l'affaire. Mais en présentant le dossier, je souhaite que vous, téléspectateurs, soyez le ou la juge. Je vais regrouper les preuves, présenter les faits, citer les témoins, et je souhaite que chacun d'entre vous puisse ainsi prendre une décision. Vous êtes le juge, et la décision finale de ce dossier est entre vos mains. Donc, votre honneur, notre dossier aujourd'hui concerne le christianisme contre le Christ. Je vais vous démontrer, avec des preuves indubitables, la vérité choquante que le christianisme actuel, la profession de foi, qui s'est approprié le nom de Jésus-Christ, ne représente pas du tout ses enseignements, ses croyances et ses pratiques. Je vais vous démontrer les faits et les preuves montrant que ce que Jésus-Christ a enseigné, ce en quoi il croyait et qu'il a pratiqué, diffère énormément de ce qui est enseigné, cru et pratiqué par ceux qui prétendent enseigner en son nom. Vous êtes là pour juger. Je suis seulement là pour vous présenter les faits. Vous devrez décider quelle conclusion en tirer. Êtes-vous prêts? Nous pouvons commencer. La première pièce à conviction est constituée des fêtes populaires et importantes du christianisme. Considérez Noël. Échanger des cadeaux, décorer un sapin de Noël, allumer des bougies et la bûche de Noël, des traditions que des dizaines de générations suivent et célèbrent au nom même du Christ. Ou bien les Pâques, avec ses lapins, ses œufs de toutes les couleurs et ses gâteaux. Encore une fois, des traditions qui sont dans la culture dite chrétienne depuis des siècles. Mais aussi des traditions qui trouvent leurs origines dans des pratiques païennes datant de plusieurs siècles avant le christianisme, voire des millénaires. Maintenant, souvenez-vous, je suis là pour présenter des faits. Et les origines païennes des traditions de Noël et des Pâques ne sont contestées par absolument personne. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Toutes les encyclopédies ou les recherches sur Internet vous diront la même chose. Même les farouches partisans du christianisme traditionnel actuel, comme Dr. James Dobson ou Dr. R.C. Sprout, ont parlé publiquement des origines païennes de telles pratiques, tout en défendant le fait qu'elles soient présentes dans le culte chrétien. Personne ne s'oppose non plus que, dans l'Ancien Testament, Dieu condamne l'usage des pratiques d'adoration païenne, même si elles sont pratiquées pour l'adorer, lui. Ses commandements sur le sujet sont extrêmement clairs, dans des passages comme Jérémie 10 et Deutéronome 12. Au verset 31 de Deutéronome 12, il déclare très clairement « Ne les imitez pas pour adorer le Seigneur votre Dieu. » Mais la question dans ce tribunal est de savoir si, oui ou non, Jésus-Christ approuve le fait de mettre de côté les ordres de Dieu afin d'autoriser des traditions païennes dans la religion qui porte son nom. En tant que témoin, je me tourne vers le Christ lui-même. Dans Marc 7, à partir du verset 6, nous lisons ce que Jésus-Christ a dit à un autre groupe qui avait décidé que leur tradition était plus importante que les commandements de Dieu. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Le Christ a expliqué absolument, très clairement, quelle était sa position concernant le fait d'ignorer les commandements de Dieu afin d'observer des traditions qui transgressent ces commandements. Dans le dossier du christianisme contre le Christ, nous voyons clairement dans l'aspect consistant à ignorer les commandements de Dieu et utiliser des coutumes païennes dans le culte chrétien que le christianisme n'est pas d'accord avec son créateur. Nous commençons seulement à examiner le dossier du christianisme contre le Christ et nous avons encore beaucoup d'autres preuves à présenter. Mais arrêtons-nous un instant pour vous donner l'occasion de recevoir des informations gratuites à ce sujet. Notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Beaucoup de gens se demandent pourquoi le christianisme est dans une telle confusion concernant ses croyances et ses pratiques. Des chrétiens tuent même d'autres chrétiens au cours de guerres et d'actes de terrorisme. Pourquoi y a-t-il autant d'églises et de dénominations enseignant autant de choses différentes ? Cette brochure, « Le christianisme contrefait de Satan », répond à ces questions et elle explique pourquoi en se basant sur la Bible, d'une manière tellement simple que n'importe qui peut comprendre. Elle explique le rôle direct et choquant que Satan, le diable, a joué dans le développement de la fausse religion chrétienne et elle donne à tout le monde l'occasion de trouver la vérité dans les pages mêmes de la Bible. Elle est entièrement gratuite et il n'y a aucun engagement de votre part. Contactez-nous ou écrivez dès aujourd'hui pour recevoir cette offre. Continuons l'examen de notre dossier avec une autre pièce à conviction. Le jour du culte chrétien. Le quatrième des 10 commandements spécifie dans Exode 20, au verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours... l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cependant, en s'opposant à ce commandement, nous notons qu'à de rares exceptions près, le christianisme actuel n'accepte pas le 7e jour de la semaine, mais plutôt le 1er jour de la semaine, le dimanche, comme un jour mis à part pour le repos et le culte. Parfois, le dimanche est même appelé le sabbat des chrétiens. Si c'est vraiment le cas, posons-nous la question. Qu'en était-il à l'époque des pratiques, des croyances et des enseignements de Jésus-Christ ? Beaucoup de gens qui ne sont pas familiers avec la Bible pensent que Jésus-Christ aurait d'une certaine manière, aboli le sabbat du 7e jour. Mais c'est l'exact opposé de la vérité. Dans Marc 2, au verset 27, Jésus expliqua que le sabbat du 7e jour a été créé pour l'homme. Et Luc, chapitre 4, verset 16, montre que le Christ lui-même observa le sabbat du 7e jour, comme il est décrit dans le 4e commandement, comme cela était sa coutume et sa pratique. Maintenant, certains diront, certes, il observa le commandement du sabbat afin que nous en soyons libérés. Après sa mort, les disciples ont changé le jour pour le dimanche. Ont-ils fait cela ? Je voudrais appeler un témoin à la barre, l'apôtre Paul. Comme les 12 autres apôtres, Paul a parlé avec le Christ ressuscité et il a été enseigné par lui. En tant qu'apôtre, désigné par le Christ pour les gentils, il est dans une position unique pour témoigner de l'introduction éventuelle du dimanche comme jour de culte, au lieu du sabbat associé avec les juifs. Que découvrons-nous ici ? Dans Actes 13, nous voyons que Paul prêcha à la fois aux juifs et aux gentils pendant le sabbat. Les gentils parmi eux étaient tellement enthousiastes par ce qu'ils entendaient qu'ils en demandèrent plus. Nous lisons dans Actes 13 et au verset 42, « Les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. » Paul leur a-t-il répondu, « Hé, vous les gentils, il n'est pas utile de respecter ce calendrier juif. Nous sommes chrétiens. Nous nous réunissons maintenant le dimanche. Donc, retrouvons-nous demain. Nous aurons une assemblée du dimanche matin avec d'autres nouveaux croyants et je serai heureux de vous enseigner. Mais il n'a pas dit cela. Il continua même, parmi les gentils, à suivre les pratiques et les enseignements de Jésus-Christ, en mettant à part le sabbat du septième jour comme un jour divin pour la congrégation et le culte. Comme nous le voyons au verset 44 du même chapitre, pendant le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Encore une fois, ce sont des faits établis, votre honneur. Jésus-Christ et l'Église du premier siècle qu'il a établie observaient le sabbat du septième jour, et pas un jour du soleil, aux origines païennes, pendant le premier jour de la semaine. Même de nombreux érudits chrétiens modernes qui observent le dimanche sont d'accord avec ce point. Ne prenez pas ma parole pour argent comptant. Sur notre site internet mondedemain.org ou sur les liens de notre page Facebook, vous pourrez trouver de nombreuses ressources montrant que le seul jour de la semaine reconnu par Jésus-Christ et la Bible comme un jour désigné par Dieu pour le repos et le culte est le samedi, le septième jour de la semaine, pas le dimanche. Vous trouverez une liste de déclarations et d'aveux des plus grandes dénominations chrétiennes sur la terre, l'Église catholique, anglicane, baptiste, méthodiste, presbytérienne, épiscopale, tout cela reconnaissent le fait que la parole de Dieu n'approuve pas du tout le culte pendant le dimanche. Tous s'accordent avec cette déclaration très claire du Catholic Press datée d'août 1900. Du début à la fin des Écritures, il n'y a pas un seul passage confirmant le transfert d'un culte public hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. Pas un seul passage dans les Écritures. Concernant le jour que Dieu a mis de côté pour un repos spécifique et pour le culte, le christianisme et le Christ ne sont pas d'accord, comme c'était le cas pour les jours saints et les traditions d'origine païenne. Et pourtant, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup d'autres preuves à prendre en compte dans l'affaire du christianisme contre le Christ. Mais avant cela, je souhaite vous rappeler la brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui. Le christianisme contrefait de Satan. Cette brochure répond à de nombreuses questions, comme pourquoi y a-t-il autant de branches différentes dans le christianisme? Pourquoi y a-t-il autant de ressemblances entre le christianisme et les religions païennes et leurs légendes? Qui est réellement derrière les changements dans les enseignements du Christ? Quelles sont les prophéties concernant les chrétiens actuels à la fin des temps? Et qu'est-ce que je peux faire dans tout cela? Comme une de nos téléspectatrices nous l'a récemment écrit à propos de cette brochure, je viens de finir de lire « Le christianisme contrefait de Satan » et je suis surprise par ce que je viens de lire. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information très importante avec le monde. Et ce n'est pas la seule. C'est une de nos brochures les plus demandées et les informations qu'elle contient peuvent changer votre vie. Tout y est expliqué afin que vous puissiez prouver la vérité par vous-même. Demandez un exemplaire gratuit sans tarder de cette offre de la semaine. Et voici comment. Rendez-vous en ligne sur mondedemain.org. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, voyez nos émissions sur YouTube et suivez-nous sur Twitter. Continuons à présent. Le dossier du christianisme contre le Christ commence seulement à prendre forme, et nous avons beaucoup d'autres preuves à présenter. Souvenez-vous, vous êtes le ou la juge, je suis seulement là pour présenter les faits. Pour nos prochaines preuves à conviction, permettez-moi d'avancer rapidement et de faire appel à votre propre expérience personnelle au sein du christianisme actuel. Avez-vous vu des prédicateurs à la télévision demandant ou même implorant des dons publics? Parfois ils disent qu'ils vous enverront en retour un cadeau spécial ou un autre bibelot, où ils promettent que Dieu vous enverra d'une manière ou d'une autre plus d'argent que vous aurez envoyé. Les étagères des librairies sont remplies à ras-bord de livres qui contiennent les conseils présentés par des gens voulant être ministres et prophètes, en échange d'une somme d'argent de votre part. Comme CNBC le rapportait en 2005, Jésus est un grand business en Amérique. Des responsables chrétiens agissent comme les PDG de petits conglomérats, qui sont parmi les meilleurs vendeurs de livres, de CD, de DVD et même de productions pour le cinéma. Comment cet aspect du christianisme moderne correspond-il aux enseignements de Jésus-Christ? Encore une fois, il représente lui-même le témoin le mieux placé à ce sujet. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10 et au verset 8, Jésus-Christ donna une instruction à ceux qu'il envoya pour le représenter. Et l'ordre qu'il leur donna est vraiment sans équivoque. Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Il n'y a pas de place pour faire un peu de bénéfice dans l'esprit de Jésus-Christ. La vérité doit être diffusée absolument gratuitement auprès de tous ceux qui veulent l'entendre. Et c'est pourquoi, soit dit en passant, que tout ce que nous proposons au monde de demain est entièrement et totalement gratuit. Nous ne vous demanderons jamais d'envoyer de l'argent ou une offrande lorsque vous commandez une de nos publications. Ce n'est pas une pratique courante dans le christianisme actuel, mais c'est une pratique ordonnée par Jésus-Christ. Passons au point suivant. Dans la plupart des églises dites chrétiennes, vous entendez parler que les morts ont une âme immortelle, qui monte au paradis, ou bien qui descend dans les profondeurs de l'enfer. Jésus-Christ, pour sa part, a parlé de la destruction d'une âme qui est bien mortelle, et de l'espoir des hommes dans la résurrection au retour du Christ, afin de régner avec lui dans le royaume de Dieu, ici-bas sur cette terre, mais pas dans le ciel pour l'éternité. Dans le christianisme actuel, nous entendons souvent dire que Jésus a obéi à tous les commandements divins afin que nous n'ayons pas à le faire. Les 10 commandements sont désormais considérés comme les 9 ou les 10 suggestions que nous pouvons éventuellement suivre. Cependant, les paroles de Jésus-Christ rapportées pour l'éternité dans les Écritures ordonnent d'observer chacun des 10 commandements. Dans le célèbre passage du Sermon sur la montagne, le Christ a même augmenté la portée des commandements. En disant par exemple que vous transgressez le 6e commandement contre le meurtre si vous haïssez seulement quelqu'un. Et que vous transgressez le 7e commandement contre l'adultère si vous convoitez seulement quelqu'un dans votre cœur. Au lieu de nous éloigner de la loi de Dieu, le Christ a, au contraire, augmenté la portée de cette loi. Il a dit clairement et distinctement dans Matthieu 19, au verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » En fait, l'apôtre que Jésus appréciait, l'apôtre Jean, a écrit dans sa première épître en parlant de Jésus-Christ, « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Le christianisme actuel a dilué, diminué et rejeté la loi et les commandements de Dieu. Alors même que Jésus-Christ et ceux qu'il a personnellement entraînés les considéraient comme le point central de la religion fondée par le Christ. Au point que tous ceux qui n'observent pas ses commandements et qui prétendent connaître Jésus-Christ sont qualifiés de menteurs dans la parole de Dieu. Comment une religion peut-elle se réclamer du nom d'un homme, dans notre cas Jésus-Christ, et être autant éloignée des choses auxquelles il croyait et qu'il enseignait? Et, votre honneur, les faits que j'ai présentés devant ce tribunal ne représentent vraiment que la partie émergée de l'iceberg. De bien des manières, le christianisme est tombé dans le piège écrit par l'apôtre Paul concernant ceux qui enseignent un autre Jésus. Mon plaidoyer dans cette affaire touche malheureusement déjà à sa fin, mais je voudrais apporter encore une pièce à conviction avant de conclure. Juste avant, laissez-moi suspendre la séance et vous rappeler notre brochure gratuite « Le christianisme contrefait de Satan ». Les véritables enseignements de Jésus-Christ sont pourtant accessibles à tous, ils sont là juste sous nos yeux, depuis des générations. Et quelques personnes fidèles ont suivi ces enseignements au fil des siècles. Ceux qui ont fait ainsi y ont découvert un véritable Dieu et un véritable Jésus-Christ, un sauveur vivant et actif qui est tout simplement et totalement absent des grandes religions. Certes, elles sont bien intentionnées mais complètement égarées et elles portent le nom du christianisme. Cette brochure a été écrite pour ceux qui sont intéressés par la vérité, ceux qui préfèrent être du côté de la justice avec Dieu, avec le Christ, et qui connaissent la vérité, au lieu d'être du côté du mensonge car c'est plus populaire ou confortable. Vous souhaitez être dans la vérité? Alors cette brochure est faite pour vous. Contactez-nous ou visitez notre site internet pour demander un exemplaire gratuit de la brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Il n'y a aucune obligation de votre part. Mettez notre parole à l'épreuve. Cette information est gratuite pour tous ceux qui en font la demande, comme le Christ l'ordonna à ses véritables ministres. Assurez-vous de réclamer la brochure offerte au cours de cette émission. Nous touchons à la fin de notre exposé. J'aurais aimé avoir plus de temps car les preuves dans ce dossier du christianisme contre le Christ sont très nombreuses. Dans un véritable tribunal, nous aurions la liberté de prendre tout le temps nécessaire. Mais je pense que les responsables des stations télévisées sur lesquelles nous diffusons nos émissions dans le monde s'attendent à ce que nous respections l'horaire prévu. Monsieur le juge, madame le juge, je souhaite vous présenter une dernière pièce à conviction disponible dans l'affaire du christianisme contre le Christ. Quel est le but de l'existence de l'Église chrétienne? Le christianisme prétend être l'organisation ou le groupe de gens, l'Église fondée par Jésus-Christ lui-même, pour accomplir son œuvre dans le monde. Quel est donc le but de cette Église? Qu'est-ce que cette Église devrait accomplir? Quel est le but du christianisme que nous voyons autour de nous? Et qu'entendons-nous de la part du fondateur même du christianisme? La réponse est-elle la même? En vous penchant sur le christianisme actuel, vous serez pardonné si vous vous demandez quel pourrait bien être son but. Le christianisme moderne est dans la confusion la plus totale à ce sujet. De nombreuses organisations chrétiennes croient dans ce qu'elles appellent un évangile social, et que le but de l'Église est de soulager la souffrance, les inégalités, la pauvreté et l'injustice dans le monde, jusqu'à ce que la terre soit transformée en un paradis ici-bas. D'autres pensent que l'Église doit utiliser les techniques du monde qui sont disponibles, comme la politique et les manifestations, en cherchant des postes d'autorité dans les gouvernements nationaux, afin d'apporter du changement dans leur pays. Pour d'autres encore, il n'existe pas un but unique et caractéristique pour l'Église chrétienne. C'est seulement une entité permettant de se sentir bien lorsqu'ils rencontrent des difficultés qui leur permet de vivre la vie qu'ils souhaitent avec plus d'assurance et d'espoir. Sans aucune mission, sans but, sans force motrice de quelque sorte que ce soit. C'est le christianisme moderne. Mais quelles sont les instructions de Jésus-Christ concernant la mission et le but de son Église? Il expliqua très clairement une grande mission vers la fin du livre de Marc. En s'adressant à ses disciples, il déclara « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Cet évangile, ou le message de la bonne nouvelle, qui doit être prêché au monde entier, est le message du royaume de Dieu. Voyez au premier chapitre de Marc, au verset 14 et 15. « Après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » La lecture du Nouveau Testament montre très clairement que la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu à venir et comment faire partie de ce royaume était la force motrice de l'Église originelle, pas seulement parmi les apôtres, mais dans le cœur de tous les croyants. Même à l'époque de la toute fin de notre ère, juste avant la deuxième venue du Christ, Jésus prophétisa que son Église continuera à se focaliser avec énergie sur la prédication de cet évangile. Voyez dans Matthieu 24 et au verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Lisez les paroles de Jésus-Christ pour vous-même et vous trouverez un homme passionné par la prédication au monde entier du royaume de Dieu à venir. Et aucune autre mission ne pouvait le distraire. Lisez l'histoire de l'Église du 1er siècle dans le livre des Actes. Vous trouverez le récit d'un peuple qui reconnaissait faire partie du plus grand effort de l'histoire de l'humanité en prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et ils le firent avec enthousiasme, en y consacrant leur vie et tout ce qu'ils avaient. À cet égard, le christianisme du 1er siècle correspondait bien à ce qu'était Jésus-Christ. Et toujours à cet égard, comme pour les autres points dont nous avons parlé aujourd'hui, le christianisme actuel ne reflète pas le Christ. Le dossier dont nous avons parlé aujourd'hui est de la plus haute importance. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu qu'à bien des égards, en égratignant seulement la surface, la religion que les gens pensent être le christianisme, dans ses différentes variantes, ne correspond pas aux enseignements de Jésus-Christ, ni à ceux des individus qu'il a personnellement entraînés. Nous avons examiné ensemble plusieurs des pratiques, des enseignements et des croyances du christianisme actuel. Et nous avons examiné ensemble les pratiques, les enseignements et les croyances de Jésus-Christ. Nous avons constaté qu'ils étaient diamétralement opposés. Nous avons vu que le christianisme, la religion actuelle qui porte son nom, ne respecte pas ce que Jésus-Christ avait ordonné, ni ce que Jésus-Christ avait enseigné, et qu'elle ne croit pas aux vérités éternelles que Jésus-Christ avait pourtant proclamées. Votre Honneur, après vous avoir présenté les faits, je termine ici mon plaidoyer. Et maintenant, à vous qui me regardez et qui jugez cette affaire, votre responsabilité est désormais de tirer les conclusions de ce dossier. Je vous ai présenté les faits. Ma responsabilité s'arrête ici, mais la vôtre commence ici. Si vous souhaitez en apprendre davantage afin d'enquêter plus en détail et par vous-même sur ce dossier, demandez la publication gratuite que nous vous proposons aujourd'hui. Ne restez pas dans l'incertitude à ce sujet. Prouvez que nous avons tort ou que nous avons raison. Mais dans tous les cas, ne vous contentez pas d'autre chose que la vérité. Merci d'avoir passé cet instant avec nous au Monde de Demain. Consultez notre site internet à mondedemain.org ou nos pages Facebook et Twitter. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine au même endroit. Roderick Meredith, Richard Hems, Rod King et moi-même sommes ici pour partager avec vous des vérités bibliques pouvant changer votre vie concernant le véritable christianisme et le royaume de Dieu, comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Retrouvez-nous au même horaire la semaine prochaine.
Pour voir les émissions du Monde de Demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.